ça va être...
Merci beaucoup.
Très bien.
Je vous invite à la prière.
À toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. Ta fidélité dure de génération en génération. Tu as affermi la terre et elle subsiste. C'est d'après tes ordonnances que les choses subsistent aujourd'hui, car tout sont à ton service. Si ta loi n'avait fait mes délices, j'aurais alors péri dans mon malheur. Je n'oublierai jamais tes statuts, car par eux, tu me fais vivre. Notre Dieu, notre Père, c'est par tes statuts, ta loi, ta parole, que tu peux nous faire vivre. Nous prions que tu nous nourrisses de ta parole, afin que nous puissions vivre, Seigneur, non plus pour nous-mêmes, mais pour toi. Au nom de Jésus. Amen. Alors, est-ce que vous savez quel est le premier symbole de la foi chrétienne ? Non ? En fait, il y en a plusieurs, figurez-vous. Sur les murs et les plafonds des catacombes, les catacombes, c'était des cimetières souterrains de Rome, les premiers chrétiens persécutés à cause de leur foi dessinaient quoi, selon vous ? En fait, ils dessinaient soit des paons, symbole d'immortalité, soit des colombes, soit des poissons, il n'en reste plus qu'un. Soit des paons, soit des colombes, soit des poissons. Mais seuls quelques initiés pouvaient comprendre finalement le sens de ces symboles. Par exemple, en grec ancien, le mot poisson, ictus, forme ce qu'on appelle un acrostiche de Jésus-Christ, fils de Dieu, sauveur. Et comme j'ai essayé de le représenter dans le premier point de mon plan, vous remarquez que l'association des premières lettres de ces cinq mots, d'accord, Jésus-Christ, fils de Dieu, sauveur, forme quel mot ? Le mot ictus, qui veut dire poisson. Donc, si vous avez un poisson collé à l'arrière de votre voiture, voilà le message que vous envoyez aux automobilistes sur la 7 ou sur la 46. Jésus-Christ, fils de Dieu, sauveur. Et ces symboles furent finalement remplacés au 6e siècle par la croix sur laquelle Jésus fut crucifié, et que vous portez peut-être autour de votre cou aujourd'hui, la croix, une croix. Pourquoi avoir choisi finalement un symbole aussi peu glorieux ? Après tout, la croix n'est-elle pas le symbole de l'échec du plan de Dieu ? Une erreur de sa part. Imaginez, vous êtes journaliste et vous avez la possibilité de voyager dans le temps pour enquêter sur la mort de Jésus, direction Jérusalem au 1er siècle. Quelques heures seulement après la crucifixion. Et là, vous croisez un officier romain qui descend du mont Golgotha, le mont où Jésus a été crucifié. Et vous lui demandez, avec votre micro, pourquoi Jésus a-t-il été crucifié ? Et là, la réponse, erreur politique. Et là, vous posez la même question à un responsable religieux juif de l'époque. Mais pourquoi Jésus est-il mort sur une croix ? Pourquoi a-t-il été crucifié ? Cet homme vous répond parce que cet homme a blasphémé en prétendant être Dieu et que selon notre loi, il doit être condamné. Parce que c'est ce que prévoit la loi pour de tels blasphémateurs, qu'ils soient mis à mort. Quelques semaines plus tard, vous assistez à la rencontre entre deux disciples et Jésus sur la route d'Emmaüs. Et vous posez la même question à Jésus. Pourquoi es-tu mort ? Pourquoi as-tu fini crucifié sur une croix ? Et c'est là qu'il vous aurait répondu, c'est ce qu'il a en tout cas répondu à ses deux disciples. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Pardon, je l'ai déjà dit. Ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour, et que la repentance en vue du pardon des péchés serait prêchée en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem, la croix. Une erreur de la part de Dieu ? Une erreur politique ? L'échec de son plan ? Pas du tout. Selon de Jésus, en fait, cette mort qui était suivie de sa résurrection est l'accomplissement, n'est-ce pas ? L'accomplissement du plan de Dieu pour le salut du monde. Le remède parfait, absolument parfait, qu'il a prévu pour nous guérir du péché. Le péché que le prophète Ésaïe compare en fait à une maladie dans la troisième strophe du quatrième chant du serviteur que nous allons voir aujourd'hui. Une strophe dans laquelle le prophète, après avoir résumé son poème, après avoir décrit le lot quotidien et les souffrances du serviteur, Une strophe dans laquelle le prophète va maintenant donner le sens théologique des souffrances du serviteur. Jésus a souffert. Pourquoi a-t-il souffert? Pourquoi? Eh bien, c'est ce que je vous propose de découvrir. Regardez avec moi dans le livre d'Ésaïe, un prophète du 8e siècle avant Jésus, au chapitre 53, les versets 4 à 6. Ésaïe, chapitre 53, versets 4 à 6. Certes, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous, nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé par Dieu et humilié. Mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui la faute de nous tous. Est-ce que vous avez remarqué dans ces versets l'insistance d'Ésaïe, alors petit rappel de grammaire, est-ce que vous avez remarqué l'insistance d'Ésaïe sur les pronoms personnels? Il et nous, et les adjectifs possessifs. Regardez avec moi encore, le verset 4, 5 et 6. Nous, nos et ses. Est-ce que vous avez remarqué un peu l'insistance d'Ésaïe sur ces pronoms personnels et ces adjectifs possessifs? Pourquoi une telle insistance? Il me semble que l'une des raisons pour lesquelles Ésaïe insiste sur ses pronoms et ses adjectifs, c'est qu'il y a eu une substitution, un échange entre nous et lui, le serviteur, qui nous a guéris par ses meurtrissures. C'est vraiment l'idée principale que j'aimerais que nous retenions ce soir. Guéris par ses meurtrissures. Et comment est-ce que le serviteur va guérir par ses meurtrissures? Eh bien, je pense que c'est ce qu'Ésaïe explique dans ces versets. Premièrement, j'aimerais voir avec vous qu'il a porté nos souffrances. Et deuxièmement, j'aimerais voir avec vous qu'il a été percé pour nos offenses. Donc premièrement, juste le verset 4. Le serviteur a porté nos souffrances. Regardez encore avec moi le verset 4. Certes, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous, nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé par Dieu et humilié. Dans ce verset, Ésaïe parle au nom du peuple d'Israël, auquel il s'identifie. Il va confesser ce qu'il pensait du sort du réservé au serviteur, mais avant de comprendre le sens de ses souffrances. C'est un peu comme s'il disait « Et nous, en fait, nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé par Dieu et humilié. » C'est ce que Ésaïe dit au verset 4, le verset 4b, la seconde partie du verset. Et d'un côté, Ésaïe a raison, n'est-ce pas? Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ésaïe a tout à fait raison. Le serviteur a bien été frappé par Dieu, c'est vrai, il a bien été frappé par Dieu, absolument. Mais d'un autre côté, il commet une erreur de jugement absolument dramatique, parce que le serviteur ne méritait pas de souffrir. Ses souffrances ne sont pas du tout les siennes, mais les nôtres. Regardez encore l'insistance d'Ésaïe, certes, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Est-ce que vous voyez ce qu'Ésaïe est en train de dire, Le serviteur a souffert, certes, mais ce ne sont pas ses souffrances qu'il a portées, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Et pourquoi ces souffrances sont-elles les nôtres? Eh bien, je pense que la réponse se trouve au verset suivant. Regardez les versets 5 et 6 avec moi. « Mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » C'est le deuxième point que j'aimerais voir avec vous. Le serviteur a porté nos souffrances, c'est vrai. Pourquoi? Il a été percé pour nos offenses. Les versets 5 et 6. Et il me semble que ces versets sont non seulement le cœur de la structure concentrique d'Ésaïe, et j'attire votre attention sur ce que j'appelle une structure concentrique, le cœur, à mon avis, du livre d'Ésaïe, mais aussi l'un des résumés de l'Évangile. Tous ceux qui placent leur confiance en Jésus peuvent avoir l'assurance d'être guéris par ses meurtrissures, par ses souffrances qui ont conduit à sa mort et à sa résurrection. Et vous voyez comment un peu Ésaïe a vraiment écrit de manière consciemment organisée, à mon avis. Nous avons une première partie qui fait référence un peu à l'exaltation du serviteur, et cette première partie correspond à la dernière partie du chant du serviteur, les versets 10 à 12. Et puis nous avons deux parties à l'intérieur de cette même partie qui correspondent à l'exclusion du serviteur, le fait qu'il ait été un peu exclu du monde, son lot quotidien caractérisé par la souffrance. 53, 1 à 3, 53, 7 à 9. Et puis le cœur, le centre de cette section, ben nous y sommes. Il s'agit de l'explication des souffrances du serviteur. Pourquoi le serviteur a-t-il souffert? Eh bien voilà les réponses. Il a porté nos souffrances. Il a été percé pour nos offenses. Les souffrances du serviteur sont en réalité, et est-ce qu'on nous en avons conscience ce soir, hein, les souffrances du serviteur sont en réalité la conséquence de nos offenses. Le serviteur ne méritait pas de souffrir. Il n'a pas souffert à cause de lui, pas du tout, mais à cause de nous, à cause de moi. Et encore une fois, mais est-ce que vous avez remarqué comment le sens de ces souffrances devient de plus en plus clair? Pour Ésaïe, première phase de compréhension, verset 3, le serviteur a souffert. Jusque-là, tout le monde me suit. Le serviteur a souffert, on est d'accord. Mais à partir du verset 4, il y a une deuxième phase de compréhension. Les souffrances du serviteur ne sont pas les siennes, mais les souffrances du serviteur sont les nôtres, ce sont les miennes. Le serviteur n'a pas du tout souffert parce qu'il le méritait, il n'a pas souffert à cause de ses propres péchés, il a souffert à cause de nos péchés, de mes péchés, dont il a subi la conséquence à ma place. Vous voyez comment il y a eu un échange, une substitution. J'ai déjà fait cette illustration il y a quelques semaines. Si vous vous en souvenez, tant mieux. Si vous ne vous en souvenez pas, tant pis. Hein. Imaginez que cette main me représente et que ce livre représente ce que la Bible appelle le péché, c'est-à-dire ce qui m'empêche d'être en relation avec Dieu, finalement. Hein. Est-ce qui me sépare de lui pour l'éternité. Imaginez maintenant que cette main représente Jésus et que l'espace qui nous entoure représente le Dieu infini, omniprésent, omnipotent, omniscient, omni tout ce que vous voulez. En fait, sur la croix, il y a eu un échange, une substitution, c'est-à-dire que mes offenses, mes péchés, mes fautes ont été transférées sur le serviteur. Ce qui fait que le serviteur a porté le poids, littéralement, de mes offenses. Et ce qui me permet aujourd'hui d'être en relation avec Dieu. Pourquoi? Parce que le serviteur a pris ce qui me séparait de Dieu. Est-ce que vous comprenez l'échange, la substitution qu'il y a eu sur cette croix où Jésus a souffert dans la mesure où il est le serviteur souffrant par excellence? Et puis regardez le verset 5, on progresse dans la compréhension. Hein. Il a été transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Littéralement, l'hébreu dit qu'il a été transpercé à partir de nos fautes. À partir de nos crimes, le châtiment que nous méritions est tombé littéralement sur lui. Une formule qui revient au verset 6, hein, regardez le verset 6. Littéralement, l'Éternel a fait en sorte que quelque chose l'atteigne. Et la troisième et la dernière phase de compréhension, il me semble que ce sont les versets 5, C et D. Le serviteur a souffert. Le serviteur n'a pas souffert parce qu'il le méritait, mais parce qu'il n'a pas souffert pour payer le prix de ses propres péchés, puisqu'il n'en avait pas, mais pour payer le prix de mes péchés. Mais les souffrances du serviteur sont en plus le châtiment de notre paix, c'est-à-dire le prix payé pour notre guérison, pour notre salut, pour le pardon de nos offenses pour lesquelles il a été percé. Et là, vous allez me dire, mais quelles offenses? Ai-je bien commis? Eh bien, la Bible est bien faite, mes amis. Regardez le verset 6, qui nous explique en quoi consistent les offenses dont nous sommes tous coupables, apparemment. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Voilà en quoi consistent nos offenses, nos fautes, nos crimes. Voilà en quoi consiste l'essence de ce que la Bible appelle le péché, finalement, l'indépendance, l'autonomie morale vis-à-vis de Dieu, qui consiste à décider nous-mêmes ce qui est bien et ce qui est mal, à décider d'être le propre Dieu de sa propre vie, finalement, et qui consiste à suivre sa propre voie, à rejeter l'autorité de Dieu dans nos vies, et à violer sa loi. Voilà en quoi consiste la maladie dont nous souffrons, et dont Dieu seul peut nous guérir, par les meurtrissures de son serviteur, qui a porté nos souffrances, et qui a été percé pour nos offenses. Est-ce que vous connaissez l'histoire du frère franciscain Maximilien Kolb? Est-ce que quelqu'un le connaît dans cette salle? J'avoue que je ne le connaissais pas avant d'avoir fait quelques recherches, mais le 17 juillet 41, nous sommes en pleine Seconde Guerre mondiale, cet homme est arrêté par la Gestapo, puis transféré dans le camp tristement connu d'Auschwitz. Et au mois de juillet, un prisonnier disparaît dans le bloc 14, le bloc où se trouve le frère Kolb. Les nazis, en guise de punition, sélectionnent alors 10 hommes pour les mettre en quarantaine. Et parmi eux, il y a un père de famille qui supplie les Allemands de ne pas le prendre. C'est alors que le frère Kolb se porte volontaire pour le remplacer. Les nazis se concertent, et puis finalement, ils acceptent la substitution. Le frère Kolb est alors emmené avec 10 autres prisonniers dans un bunker souterrain, où il sera finalement exécuté. À la place de ce père de famille. Alors je sais bien qu'aucun exemple ne pourra jamais illustrer parfaitement ce que Jésus a fait, mais l'histoire nous offre parfois quelques événements qui peuvent nous aider, comment dire, à mesurer la grandeur du sacrifice du serviteur. Est-ce que vous en avez conscience? Est-ce que vous avez mesuré la grandeur du sacrifice du serviteur? De la même manière que le sens des souffrances du serviteur devient de plus en plus clair pour Ésaïe dans ces versets, de la même manière que la lumière s'allume dans son cœur, dans son esprit, est-ce que la lumière s'allume aussi pour vous ce soir? Le sens des souffrances du serviteur est-il de plus en plus clair pour vous? Au moment même où nous en parlons, avez-vous conscience que c'est nous, que c'est moi qui méritais finalement de souffrir, mais que c'est le serviteur qui a souffert à ma place, à notre place, à votre place, pour que nous soyons guéris par ses meurtrissures? Eh bien, si nous avons vraiment conscience de cela ce soir, j'aimerais vraiment nous encourager à faire deux choses. La première, et c'est les deux applications que je vous propose, c'est de confesser le serviteur. Confesser le serviteur. Et pour confesser le serviteur, j'aimerais que nous nous livrions à une expérience. J'aimerais que nous relisions ces versets que nous avons lus, donc Ésaïe 53, 4 à 6, comme une confession de foi. Et si vous n'avez jamais fait une confession de foi dans votre vie, c'est peut-être le moment de le faire, dans le secret de vos cœurs. Une confession de foi en remplaçant les adjectifs possessifs et les pronoms personnels, attention, de la première personne du pluriel, par les adjectifs possessifs et les pronoms personnels de la première personne du singulier. Merci beaucoup. Je vous invite donc à répéter ces versets après moi dans le secret de vos cœurs et à vous laisser transpercer, émouvoir peut-être par leur sens et à vous les approprier parce qu'ils sont pour vous. Si vous acceptez le don gratuit de Dieu en Jésus-Christ, je lis. Certes, ce sont mes souffrances qu'il a portées. C'est de mes douleurs qu'il s'est chargé. Et moi, je l'ai considéré comme atteint d'une plaie, frappé par Dieu et humilié. Mais il était transpercé à cause de mes crimes, écrasé à cause de mes fautes. Le châtiment qui me donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que je suis guéri. J'étais errant comme une brebis. Je suivais ma propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui ma faute. Je ne sais pas si vous avez confessé ces paroles dans le secret de vos cœurs, mais si vous l'avez fait, mes amis, vous pouvez avoir l'assurance, là, tout de suite, aujourd'hui, d'être pardonné, sauvé, en paix, en règle, réconcilié avec Dieu pour l'éternité. Pourquoi ? Parce que Jésus a porté vos souffrances, les conséquences de votre péché. Il a été percé pour vos offenses, pour mes offenses, les causes du péché. Il a tout accompli, une bonne fois pour toutes. C'est pour ça que l'une des dernières paroles de Jésus a été « Tout est accompli, absolument, pour que nous soyons définitivement guéris. » Guéri par ses meurtrissures, sauvé en quelque sorte par ses souffrances qui l'ont conduit à sa mort et à sa résurrection. Et ainsi, nous n'avons plus besoin de vivre dans la culpabilité objective devant Dieu, et ce, quelle que soit la gravité des péchés que nous avons commis, car Jésus a été considéré comme coupable à notre place. Il est devenu péché pour nous, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Je pense que c'est fondamental. L'une des implications de la substitution pénale, c'est que nous pouvons vivre libérés de la culpabilité objective devant Dieu. Alors bien sûr, si nous savons que nous avons péché contre Dieu ou contre les hommes, et si nous rejetons en bloc l'autorité de Dieu dans un domaine particulier de nos vies, il nous appartient, bien sûr, de confesser nos péchés à Dieu, qui est fidèle et juste pour nous les pardonner. et pour nous purifier de toute injustice. Mais si la culpabilité subjective, parce que je pense qu'il faut faire une distinction entre la culpabilité objective devant Dieu et la culpabilité subjective, celle que nous pouvons ressentir, mais qui est plus le résultat du travail de l'ennemi de notre âme qui nous accuse. Si la culpabilité subjective nous accuse, nous empêche de vivre, et nous condamne, au lieu de répéter comme l'Association internationale de l'estime de soi, c'est véridique, hein, je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Au lieu de répéter ça, pourquoi ne pas répéter ceci ? Dieu m'aime. Dieu m'aime et m'accepte en Christ, en dépit de ce que je suis. Essayons de répéter cela. Dieu m'aime et m'accepte en Christ, en dépit de ce que je suis. Inutile de vous présenter Martin Luther, l'un des célèbres réformateurs allemands que je cite à peu près dans chacune de mes prédications. Un moins désespéré à cause de son péché, voici ce que Martin Luther a écrit. Luther qui lui-même a beaucoup désespéré à cause de son péché, hein, c'est ce qui d'ailleurs l'a mené sur la voie du christianisme biblique, lui qui était catholique et qui s'est finalement posé beaucoup de questions. Hein. Et voici ce qu'il écrit à un moins désespéré à cause de son péché. Apprends à connaître Christ et lui crucifié. Apprends à lui chanter et lui dire, Seigneur Jésus, tu es ma justice, je suis ton péché. Tu as pris sur toi ce qui était à moi. Et tu as pourtant placé sur moi ce qui était à toi. Tu es devenu ce que tu n'étais pas, afin que je devienne ce que je n'étais pas. Vous avez suivi ? Je relis. Apprends à lui chanter, à lui dire, Seigneur Jésus, tu es ma justice et je suis ton péché. Tu as pris sur toi ce qui était à moi, c'est-à-dire mon péché. Et tu as pourtant placé sur moi ce qui était à toi, c'est-à-dire ta justice. Tu es devenu ce que tu n'étais pas. Jésus est devenu péché, afin que je devienne ce que je n'étais pas. C'est beau, non ? C'est beau. Je peux vous l'envoyer par email pour que vous puissiez le répéter dans des prières. Première implication de la substitution pénale, confesser le serviteur, le confesser, pour être délivré de la culpabilité subjective devant Dieu. Deuxième et dernière application, suivre le serviteur, qui est lié au verset 6. Hein. Vous vous rappelez l'essence du péché selon ce verset ? Chacun, nous étions tous comme des brebis errantes et chacun suivait sa propre voie. Là, je pense qu'il s'agit de suivre non plus nos propres voies, mais les voies de Dieu, les voies du service, les voies du serviteur. Suivre le serviteur, confesser le serviteur, c'est bien, mais êtes-vous prêt à aller plus loin cet après-midi, cette semaine ? Êtes-vous prêt à suivre le serviteur ? Alors, bien entendu, les souffrances que Jésus a endurées sur la croix sont uniques dans l'histoire. J'espère que vous serez d'accord avec moi. Hein. Il a été percé pour nos péchés une bonne fois pour toutes. On est d'accord, hein. Nous ne sommes pas appelés à le suivre en nous faisant crucifier. D'accord ? C'est malheureusement ce qui se fait aux Philippines, figurez-vous, où certains croyants se font enfoncer des clous de 10 cm dans les paumes des mains. Allez sur Internet, hein, je n'invente rien, pour que Dieu épargne leur famille de la maladie. Donc, je vous invite à ne pas vous faire crucifier, d'accord ? Et à ne laisser personne vous mettre des clous de 10 cm dans les paumes des mains. Je ne pense pas que Dieu nous appelle à nous faire crucifier. Ok ? Volontairement, en tout cas. Nous ne sommes pas appelés à suivre Jésus en nous faisant crucifier, c'est clair. En portant nos propres péchés. Pourquoi ? Parce que lui-même les a déjà portés. Mais, je pense que nous sommes appelés à le suivre, notamment en portant les péchés des autres. Alors avant de me lapider pour hérésie, hein, et de m'excommunier de cette église, écoutez ce qu'écrit Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer, qui pour la petite histoire était l'un des penseurs chrétiens, l'un des théologiens les plus éminents du XXe siècle, dans un livre que je vous conseille tous de lire avant de mourir, qui s'appelle « The Cost of Discipleship », qui a été traduit en français, me semble-t-il, par « Le prix de la grâce ». Voici ce que dit Dietrich Bonhoeffer. Bien qu'il soit vrai que seules les souffrances de Christ sont un moyen de rédemption, on est d'accord ? Cependant, puisqu'il a souffert pour le monde entier, porté ses péchés, et puisqu'il partage avec ses disciples le fruit de sa passion, le chrétien, vous êtes concerné si vous êtes chrétien, disciple de Christ, lui aussi doit porter les péchés des autres. La passion de Christ le fortifie pour vaincre les péchés des autres en les pardonnant. Il devient le porteur des fardeaux des autres. Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Galates, chapitre 6, verset 2. Comme Christ porte nos fardeaux, ainsi devrions-nous porter les fardeaux de nos prochains. La loi du Christ, que nous avons le devoir d'accomplir, est le fait de porter la croix. Le fardeau de mon frère que je dois porter est littéralement son péché. Et la seule manière de porter ce péché, c'est en le pardonnant, dans la puissance de la croix de Christ à laquelle j'ai maintenant part. Ainsi, l'appel à suivre Christ signifie toujours un appel à prendre part à l'œuvre de pardon des péchés des hommes. Le pardon est la souffrance du Christ que le chrétien a le devoir de porter. Alors je vous laisse le soin de discerner la validité théologique de ce que déclare Dietrich Bonhoeffer, qui était quand même l'un des théologiens les plus reconnus du XXe siècle. Mais si vous estimez qu'il va trop loin dans son interprétation de Galates 6:2, et c'est ce que je me suis dit à première lecture, je vous propose de baser notre application sur l'appel de l'apôtre Pierre, canonique cette fois-ci, à suivre les traces du Christ, et qui n'est peut-être pas loin de ce que nous avons lu en fait. Regardez ce qu'écrit l'apôtre Pierre dans sa première épître, 1 Pierre chapitre 2 versets 22 à 24. Il nous appelle à suivre les traces du Christ, lui qui n'a pas commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est pas trouvé de faute. Lui qui insultait ne rendait pas l'insulte, souffrant ne faisait pas de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté nos péchés en son corps, sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice, lui, dont la meurtrissure vous a guéri. Ça vous rappelle quelque chose? Il est en train de citer Isaïe 53, mes amis, notamment les versets 4 à 6. Mais est-ce que vous voyez quelles sont les implications de la substitution pénale dans notre vie? Selon Pierre, dans son livre Christian Charity, Jonathan Edwards, que nous avons étudié avec le groupe de jeunes, l'un des plus grands théologiens, cette fois du quel siècle, Jonathan Edwards? 18e siècle, merci. Jonathan Edwards soutient que la forme de l'œuvre rédemptrice de Christ devrait en fait former, modeler notre façon de vivre. C'est ce qu'il appelle les règles de l'Évangile. The rules of the gospel. Comment réagir, très concrètement, comment réagir quand nous sommes insultés, méprisés, ça vous est peut-être déjà arrivé, à cause de nos convictions éthiques, ou à cause de notre opposition au mariage pour tous, sur Facebook ou sur Twitter, comment réagissez-vous? Parmi vos amis, vos collègues de travail, et si au lieu de rendre l'insulte, nous nous en remettions à celui qui juge, justement, et à qui appartient la justice? Et si nous suivions le serviteur souffrant, en aimant nos ennemis comme il les aime, en priant pour ceux qui nous persécutent, comme lui-même a prié, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, c'est ce que Jésus a prié sur la croix, n'est-ce pas? En faisant du bien à ceux qui nous haïssent, comme il a fait, en les pardonnant, comme il nous a pardonné. N'est-ce pas à cela que nous sommes appelés? N'est-ce pas à cela? Parce que Christ a souffert pour nous, et qu'il nous a laissé un exemple. Prions. Je propose de réfléchir encore une fois dans le secret de vos cœurs à ce que nous avons entendu. Le fait que nous pouvons avoir l'assurance d'être guéris par les meurtrissures du serviteur, ses souffrances qui l'ont conduit à sa mort et à sa résurrection. Et que tout cela est possible parce qu'il a d'une part porté nos souffrances, les conséquences du péché, et qu'il a en plus été percé pour nos offenses, les causes de nos péchés. Les implications, confesser le serviteur et le suivre, en pardonnant les autres notamment, dans la mesure où nous sommes pardonnés, guéris. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions infiniment pour le don de ton Fils, le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui a porté nos souffrances, qui a été percé pour nos offenses et qui nous a ainsi guéris par ses meurtrissures. Je prie que tu nous aides par la puissance de ton esprit à confesser le serviteur tous les jours de notre vie et à le suivre lui et non plus nous-mêmes. Tout cela en t'aimant de tout notre cœur, mais aussi en aimant nos prochains comme nous-mêmes, en les pardonnant, en priant pour eux, en leur faisant du bien, comme tu nous le demandes, comme tu nous appelles à te suivre, parce que le serviteur a souffert et nous a laissé un exemple à suivre. Et c'est en son nom que nous prions pour sa gloire. Amen.